Ceci est la rediffusion de l'émission Cappuccino.
Alors, on vous souhaite un beau réveil, plein de bonnes choses. Aujourd'hui, il va faire beau, donc il faut en profiter.
Ero tentato ma no, e va bene lo so, ma com'è bella la vita e la tua faccia alle sei di mattina.
Ma tu non piangere.
Aligre FM presenta Cappuccino.
Bene, caro Fabrizio.
Caro Renato.
Il nostro amico Michelino ci ha lasciati.
Oui,
hai preso il posto te stesso, bravo, bravo.
Oui, il faut qu'on se requinque là. Oui, après quelques temps un peu plus loin, mais on revient en grande forme et avec beaucoup d'invités, justement, comme on a pris du retard, on a une grosse émission. Mais ça me fait plaisir, moi aussi. Donc, je vais vous indiquer le sommaire à toi, Renato, à tout le monde. Dans ce cappuccino dominical, on va causer sur donc des Italiens, des Franco-Italiens, des Italiens de France, des histoires italiennes, avec Pascal Guglielmi, vous allez voir qui c'est, Mario Cella, Francesca Klapcic, Manolo Branic, Guido Reni et notre invité spécial dans nos studios en direct, Madame Natalia Smalto. Voilà, toutes les facettes du bel paese pour vous accompagner jusqu'à 10h30. Je rappelle qu'à Ligre FM, on est donc 8h-11h tous les dimanches, dans des nouveaux studios d'ailleurs, dans le 5e arrondissement de Paris. D'ailleurs, pas très loin de l'hôtel d'un Toscan, Scipione Sardini, que Michel a peut-être connu. Un très bel hôtel particulier qui était un hôpital juste à côté, qui était le banquier d'Henri III. On est juste à côté, voilà, vers l'avenue des Gobelins. Donc voilà, on est très content d'être dans ces nouveaux studios, dans cet incubateur et ce campus universitaire Césure. Et dorénavant, on va être diffusé pour la première fois le mercredi de 10h à 11h sur Aligre FM. Et toujours évidemment sur Top Italia, l'émission le vendredi à 8h et la partie invitée mercredi 12h et jeudi 18h. Et on a aussi Alain Mingual avec nous aujourd'hui.
Si, bonjour à toutes et tous.
Bonjour. Alors Alain, tu as quelques actualité culturelle, cinématographique à nous proposer?
Oui, absolument. On va parler beaucoup, beaucoup de cinéma. Notamment, je vous avais rappelé il y a quelque temps que le cinéma Les Cinq-Martins présente une fois par mois, un dimanche par mois, un film italien présenté par Francesca Pesce, donc qui est d'origine italienne et qui présente le film et qui fait un petit peu un débat après. Ce sera le prochain, le 16 novembre à 11h30. Et le film sera Il Bel Antonio, avec un rôle à contre-emploi pour Marcello, puisque le Latin Lover dans ce film, d'après Brancati, une fois marié avec la belle Claudia Cardinale, ne peut plus accomplir son devoir de mari.
Alors, c'était d'ailleurs le paradoxe de Marcello Mastroianni, parce qu'il disait lui-même: je ne suis pas un Latin Lover, alors qu'on le considère comme
et puis dans
comme
un
le Latin
film,
Lover par excellence.
Dans un film d'Ettore Scola dont on va parler tout à l'heure, Ettore Scola aussi, dans la journée particulière, il joue carrément le rôle d'un homosexuel. Mais cela dit, il se passera peut-être quelque chose dans ce film avec la belle Sophia Loren. Donc voilà, ça c'est pour dimanche 16 novembre, mais vendredi 14, c'est le deuxième vendredi du mois. Et donc, c'est notre petit ciné-club avec les Aclis.
Aux Aclis.
Je rappelle, donc, c'est à 20h aux Aclis. C'est gratuit. On peut apporter un paquet de chips ou une bouteille de Prosecco si on veut, pour discuter après le film. Voilà,
ouais, ou des crudités aussi. On n'est pas obligé de prendre des chips.
Ou des crudités. Oui, des fruits. Et donc, ce sera présenté comme d'habitude par Angelina Dazzera. Et cette fois, le film, c'est d'après un roman érotique, c'est La Veneziana, un roman érotique vénitien anonyme. Et c'est un film de Mauro Bolognini avec Laura Antonelli, Monica Guerritore et Jason Connery, qui est le fils de Sean Connery, le célèbre. Voilà.
Cette Monica, James Bond.
James Bond. Et Monica Guerritore, qu'on avait vu déjà dans Signore et Signori, dans notre ciné-club, vient de réaliser un film sur Anna Magnani, où elle joue le rôle d'Anna Magnani. on espère que ce film va sortir en France. Sinon, il faut suivre surtout les actualités de l'Istituto Culturale Italien. Là, c'est pareil, c'est gratuit. Mais il faut s'inscrire sur le site. Et notamment, prochainement, il y aura le film Familia de Francesco Costabile qui est sorti cette année, ce film. Donc, c'est rare qu'on puisse le voir aussitôt diffusé à l'Institut Culturel Italien. Et ça, ce sera le lundi 24 novembre. Ils continuent leur marathon de 50 fois Pasolini, puisqu'on commémore plutôt les 50 ans depuis l'assassinat de Pier Paolo Pasolini.
D'accord, et d'ailleurs, il y a plusieurs ouvrages qui sont parus.
Oui, également. Alors, et là également, on recevra Pasolini en décembre, traduit par Stefano Palombari, pour Mourir pour des idées. Et il viendra le présenter également à notre ciné-club du 12 décembre. Également, Huguette Atem, qu'on avait reçu dans cette émission, qui est la traductrice de Pirandello, Eduardo De Filippo, donc sera reçu à l'Institut, qui a bien connu également la famille de Ettore Scola, sa femme et ses enfants. Et j'en arrive donc à Ettore Scola. La chose à voir absolument en ce moment, c'est cet ouvrage qui est une sorte de roman graphique qui s'appelle
Un dragon en forme de nuage.
Voilà. Qu'est-ce que c'est ? C'est Ettore Scola, c'est le dernier scénario d'Ettore Scola qui était prévu, donc un scénario qui est tout écrit, qui avait été écrit pour Depardieu. C'est l'histoire d'un petit libraire sur l'île Saint-Louis, donc ça se passe à Paris, un film français. Ça se passe à Paris, et ce libraire s'occupe d'une fille qui est paraplégique. Et donc, il doit s'occuper complètement d'elle, et il va faire une rencontre dans sa vie qui va un petit peu bouleverser sa vie. Mais pourquoi ce film ne s'est pas fait ? Parce qu'il devait être financé par Medusa. Medusa, c'était la compagnie qui, à l'origine, faisait du cinéma de Berlusconi. Berlusconi est devenu au pouvoir, et donc ça ne marchait plus très bien entre Ettore Scola, qui était un homme de gauche, et Berlusconi. Et puis là-dessus, Scola a eu un problème de santé, et donc finalement ça a été transformé en une bande dessinée. Et quand dessiné par Ivo Milazzo, qui est un grand dessinateur italien, et ce bouquin vient d'être traduit, il a dû tout redessiner quand on a dit à Depardieu qu'il y a les figurait sur cette bande dessinée. Il a réclamé un tel droit à l'image qu'ils ont dû dire, bon, ce ne sera plus Depardieu qui sera présenté.
Ce sera sans Depardieu dans le roman graphique.
Ils ont dû tout redessiner, le visage de Depardieu, pour lui rajouter une barbe, notamment pour qu'il ne soit pas reconnaissable. Donc, cet ouvrage a été présenté justement par Silvia Scola, la fille de Ettore Scola, dans les différentes librairies italiennes. Je vous conseille fortement, donc, soit de l'acheter dans deux librairies italiennes de Paris, la Libreria ou la Tour de Babel, ou bien de le commander à votre éditeur. C'est vraiment un très bel ouvrage.
Un dragon en forme de nuage.
Voilà, avec en plus un cahier présenté par Jean Gilly, préface de Jean Gilly, et puis un cahier qui représente les différents grands films. L'éditeur de cette édition française, c'est un sarde, justement. Il s'appelle Salvatore Bidao, et ce sont les éditions Fordis. C'est un sarde qui vit en France maintenant, bien sûr, et qui a édité donc ce dragon en forme de nuage, d'après un scénario d'Ettore Scola.
Voilà, un sarde. Merci beaucoup, Alain.
Aujourd'hui.
Merci beaucoup, Alain. On va faire une petite pause musicale et on va accueillir tout de suite notre invitée, juste après, Madame Natalia Smalto.
A 18 anni, la mia provincia grigia, abbandonai, deciso ad arrivare. Portavo via più sogni che valigie, deciso a conquistare la gran città. Presi così dal sarto più di nome, l'abito blu che era una novità. E tra foto, canzoni e l'orchestrazione, i miei risparmi son finiti là. Mi vedevo già sopra i manifesti, col mio nome grande, più grande di non importa chi. Mi vedevo già
grande fra i modesti, e firmavo foto, stringevo mani di qua e di là. Il più grande dei grandi fantasisti, e ad ogni successo la gente in piedi clamava a me. Mi vedevo già elencare in liste chi poteva a turno per una sera abbracciarsi a me. Certo sto invecchiandomi sempre in questi panni, ma la voce là frutto d'esperienza e capacità. Sono inacidito un po' col passare degli anni, però del mestiere ti ho tante idee che non tradirò. Non domando che di calciar la scena, ogni volta il cuore davanti al pubblico batterà. Non ho avuto mai un po' di fortuna, non hanno mai capito che ho del talento, ma io ne ho. L'abito blu, 30 anni che lo porto, le mie canzoni fanno ridere solo me. Ogni scrittura mi butto a corpo morto e sopravvivo, chi lo sa com'è. Conosco solo trionfi raccontati, viaggi di notte e donne da motel, miserabili paghe, valigi e tournée con pasti magri e scalcinati hotel. Mi vedevo già.
C'est bon, ouais, tu peux.
In fotografia.
Voilà, alors on va accueillir madame Nathalie Asmalto. Bonjour madame. On vous accueille donc dans nos studios dans le 5e arrondissement. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est un vrai honneur de vous recevoir ici. On va parler de votre fondation, évidemment. On va détailler votre action. Donc, c'est la fondation Signature que vous avez créée et que vous présidez, ainsi que l'association des Amis des Jardins Remarquables Européens. Mais on va quand même s'intéresser à vous avant, parce que vous avez une étoile particulière de destinée. On va le voir. Et donc, c'est intéressant d'en parler un petit peu. Donc voilà, donc on vient d'écouter, c'est vous qui avez fait la programmation musicale, on vient d'écouter Charles Aznavour, on va dire pourquoi. Là, c'est dans la version italienne, et évidemment, il y a cette phrase qui résonne chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. En italien, ça donne presi così dal sarto più di nome l'abito blu che era una novità. Mais avant, on va ouvrir une petite page cuisine. Alors, comme vous êtes donc d'origine russe. Donc, voilà, ça ouvre un peu quelques perspectives sur la cuisine russe. On connaît mal, je pense, la cuisine russe. Évidemment, on connaît le borscht, là, cette soupe qui est rouge, non, qui est plutôt rouge d'ailleurs.
Écoutez, c'est tout à fait incroyable de commencer le dimanche dans telle belle compagnie à l'italienne, avec un petit café Nespresso que j'adore. Et c'est vrai, l'ambiance, elle est tout à fait sympathique, comme d'habitude, quand on s'approche vers les Italiens. Mais bon, c'est vrai que je ne suis pas très objective, tout en sachant que mon mari, Francesco Smalto, il a été d'origine, effectivement, italienne de Reggio Calabria. Oui. Mais vous me parlez de la cuisine russe. Je me suis dit, vous parlez plutôt de la cuisine italienne, mais si ça vous intéresse... C'est vrai, vous avez évoqué un soupe qui est, je pense, le plus célèbre. C'est le soupe faite à la base des légumes. C'est à peu près le style de minestrone en Italie, mais qui est faite avec du chou.
Du chou et rouge, alors?
Pas spécialement, non, pas du tout, pas du non. tout. Du chou normal. Cette couleur rouge, c'est la betterave qui donne cette
d'accord.
couleur, en réalité. Et... c'est un soupe qui, bien sûr, elle est faite sur toutes les régions de pays de l'Est, en réalité. En revanche, il y a effectivement certaines différences, petites différences, mais qui sont présentes en fonction de la région. Donc, en Ukraine, on va faire plutôt le borscht sans betterave, qui sera le soupe plutôt clair.
D'accord.
Avec beaucoup de tomates.
D'accord.
Et si on parle des régions un peu plus au nord, en Russie, bah, effectivement, il y en a beaucoup plus de betteraves. Donc, les subtilités, elles existent. Et après, chacun fait à sa manière. Chaque femme...
à sa sauce. Et alors, vous, quels sont vos plats préférés dans la cuisine russe?
Alors,
Il y a le bœuf stroganoff, les blinis, le coulita, je crois, ça ressemble un peu au panettone, c'est un gâteau de Pâques.
Oui, il y en a. Je dois vous dire, je suis extrêmement traditionnelle, donc j'aime beaucoup borscht.
D'accord.
Donc, c'est un soupe que je pratique moi-même de manière récurrente.
Régulièrement,
mais c'est vrai qu'il y en a pirojki, il y en a beef stroganoff pour ceux qui adorent la viande. Moi, je ne mange pas autant de la viande.
Beef stroganoff ou beef stroganoff?
Beef stroganoff.
D'accord.
Voilà.
C'est important.
Si vous le dites. Après, il y a pelmeni, il y a tas de choses, mais je pense qu'effectivement, parmi les plus connus, c'est beef stroganoff, le soupe de choux, et peut-être le salade d'olivier, avec le nom tout à fait français, mais qui est pratiqué beaucoup, voilà.
D'accord.
En Russie.
Très bien. Alors, on a aussi une nouveauté au niveau des livres, c'est la pétillante, la spumeggiante et Julie Andrieux qui sort un livre, Julie Andrieux cuisine l'Italie. C'est paru le 23 octobre 2025 chez Solar. Sa grand-mère Hélène était italienne et Julie Andrieux s'est installée proche de ses racines il y a quelques mois. Elle habite maintenant à Rome. Alors, elle propose les recettes secrètes des grands restaurants italiens de Rome, Venise, Naples et Florence. Alors, par exemple, je vais vous donner quelques exemples que j'ai chopés au hasard. Vous me voyez venir. Où peut-on déguster le fameux cappuccino? Eh bien, au bar del cappuccino di Santoro, c'est à Rome, où Luigi dessine des fleurs, des cœurs dans la mousse de cappuccino. C'est joli.
Donc, à visiter.
Voilà, à visiter. Ça, c'est à Rome. Ou sinon, on va au bar Rialto à Venise. Voilà, une belle adresse qui fait rêver. Et d'ailleurs, quelque chose que j'ai appris dans le livre, on ne commande jamais un cappuccino après 11 heures en Italie, parce que c'est très mal vu par les vrais restaurateurs italiens. Voilà les quelques petites pépites qu'on peut trouver dans ce livre. Julie cuisine l'Italie. Alors, on va écouter tout de suite une interview que j'ai faite au mois de septembre. J'étais à Marseille voir un pâtissier ex-cheminot qui s'appelle Pascal Guglielmi qui s'est installé derrière la mairie de Marseille près du quartier du Panier. Il a quand même été formé à Paris chez Storer, la plus vieille pâtisserie de Paris, le pâtissier de la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Donc voilà, ex-cheminot reconverti. Et donc je vais demander aussi, car je ne comprenais pas trop quels étaient les rapports entre le ferroviaire et le pâtissier. Eh bien, il y en a. Il y a des points communs et vous allez voir, il va nous l'expliquer. La rigueur, le lever tôt, l'uniforme, tout ça, c'est des points communs qu'il a retrouvés dans son nouveau métier de pâtissier. Bonjour Pascal Guglielmi, nous sommes dans votre pâtisserie laboratoire près du Vieux-Port de Marseille. Comment êtes-vous arrivé là ?
Eh bien, j'ai ouvert ici il y a 4 ans et demi, après avoir travaillé plus de 14 ans à la SNCF. J'ai fait une reconversion et j'ai ouvert ma pâtisserie juste après le Covid.
Quel a été votre parcours ? Vous avez un peu fait le tour de France avant d'arriver ici ?
Oui, exactement, parce que je suis né à Bordeaux. Après, j'ai grandi en Charente-Maritime. Puis j'ai été embauché à l'époque en alternance à la SNCF à Tours et à Rennes. Puis j'ai travaillé sur Tours, sur Lyon, sur Paris, puis j'ai atterri à Marseille.
En tant que cheminot ?
En tant que cheminot, oui. La dernière étape, ça a été Marseille. J'ai été muté sur Marseille, puis j'y ai travaillé quelques années avant de passer mon CAP pâtissier et de quitter la SNCF.
Donc c'est une reconversion ?
Voilà, exactement. Après, je connaissais un petit peu la pâtisserie parce que mes parents avaient une pâtisserie à Bordeaux quand j'étais jeune. Et puis finalement, je suis revenu à mon premier amour, la pâtisserie, parce qu'à la SNCF, je m'ennuyais, ça ne me plaisait plus. Et puis avec les restructurations internes, etc., c'était plus du tout la SNCF que j'avais connue quand j'étais jeune embauché. Donc j'avais envie de faire autre chose, de créer quelque chose à moi.
Vous êtes passé, avant de vous installer ici, par quelques belles maisons, notamment à Paris.
Oui, ben, après j'ai été formé par un meilleur ouvrier de France, Jean-Michel Perruchon, dans une école qui est connue des professionnels, l'école Bello et Conseil. Et après, ça m'a permis d'aller un petit peu chez Storer, la plus vieille pâtisserie de Paris rue Montorgueil. Bon, malheureusement, il y a eu le Covid, donc c'est là que je suis rentré à Marseille. Et après quelques expériences, j'ai préféré ouvrir ma pâtisserie parce que à Marseille, c'était difficile de trouver un emploi. Il y a beaucoup moins de pâtisseries qu'à Paris.
Et donc, Guglielmi, c'est italien?
Oui, je suis d'origine italienne parce que j'ai mon grand-père du côté de mon père qui était italien, qui avait exactement le même prénom et le même nom de famille que moi, même si je ne l'ai pas connu puisqu'il est décédé assez jeune.
C'est de quel coin d'Italie?
Frosinone.
Ciociaria.
Près de Rome, ouais, voilà.
Le secteur du rail et les douceurs raffinées, c'est pas spécialement proche. Qu'est-ce que vous a apporté ce métier de pâtissier?
Ah ben si, pour être cheminot, il faut aussi de la rigueur, hein. Il fallait se lever tôt, surtout que j'ai connu l'époque des trains nuit où il fallait se lever à 1h du matin, avec l'horloge, c'était très important, le fait d'être...
Il y a quand même des points communs.
Ah oui, moi je trouve qu'il y a des points communs. Déjà, il y a l'uniforme, j'avais la tenue de cheminot, maintenant j'ai la tenue de pâtissier.
Alors, est-ce que vous préférez en pâtisserie le croquant, le moelleux, le crémeux ou le mousseux?
Moi, j'aime les choses assez simples, comme les tartes au citron, où on fait actuellement des tartes à la pistache de Sicile, c'est assez délicieux. Et sinon, après, évidemment, comme tout le monde, j'aime aussi beaucoup le chocolat.
Vous dégustez ça avec quelle boisson? Qu'est-ce qui vous plaît à boire?
Ah, une coupe de champagne.
Champagne.
Voilà, après, j'accepte aussi le prosecco. Hein.
c'est bien, il est bien ce Pascal. Ici, on est au 28 Grand Rue, à Marseille, dans le...
Deuxième arrondissement,
donc juste derrière le Vieux-Port, la mairie, pas loin de l'Hôtel Dieu, voilà, un super quartier. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir reçus, Pascal Guglielmi.
Merci à vous.
Voilà, Pascal Guglielmi, un délicieux pâtissier. Et donc cet été aussi, j'étais à la rencontre, là cette fois-ci, on part en Italie, en Liguria, Alta Liguria, même à Santo Stefano d'Aveto, où j'ai rencontré Mario Cella, un vero focacciaio, un fougassier. Donc il fabrique une fantastique focaccia genovese. Donc voilà, l'interview, elle est en italien, vous allez voir, mais je vous ferai un petit résumé juste après.
Quando è che ha scoperto la focaccia?
La prima volta avrò avuto giusto 15 anni che ho cominciato quando mia mamma prima del negozio si alzava alle 4 per fare un po' di focaccia.
Quanto al punto massimo, quanto chili fate?
Nel Ferragosto siamo riusciti in questo piccolo ambiente qua di fare 250 kg di focaccia in un giorno, sì. Dall'una e mezza di notte sino alle 2:30, 3.
Che tipo di croccantezza cerchi nella tua focaccia?
La nostra focaccia è un po' famosa proprio per quello, no? Perché c'è il croccante sopra, però deve essere croccante, cioè la pasta appoggiata alla teglia deve essere croccante anche lei, sì. Però ci deve rimanere nel mezzo con la morbidezza, che è lì il bello.
Fra, no? I due croccanti.
Fra i due croccanti. Infatti tanti usano lo strutto e via. Noi dentro all'impasto c'è un pochettino d'olio, ma poco. L'olio ce lo mettiamo sopra e via. Infatti sembra unta, ma la mia focaccia non è unta.
Cosa ti piace da bere con la tua focaccia?
Ma poi ce ne sono, vermentino, ci potrebbe stare anche un bel pigato di Albenga. Comunque, okay. Sì, nel bianco ci sta.
Voilà, donc à boire avec cette focaccia, il nous donne des bons conseils. Un vermentino, un cépage typiquement italien, ou un bel pigato di Albenga, ça c'est à l'ouest de Gênes, sur la rivière Aponente. Ça met en appétit. Alors, je vous résume un peu ce qu'il a dit. Il a découvert la focaccia genovese à l'âge de 15 ans, quand sa mère en faisait dans la pâtisserie familiale, mais un petit peu, c'était vraiment les débuts. Et là, il est arrivé par exemple avec ce Ferragosto le 15 août dernier, où il en a fabriqué 250 kilos. sur une seule journée. Donc ça marche très très bien. C'est vrai qu'elle est fameuse, croquante dessus, dessous et moelleuse à l'intérieur, avec ce goût d'huile très enveloppant qui vous enveloppe le palais et ce sel qui croque. Comment ?
Et avec des herbes par-dessus, avec un tout petit peu d'oregano.
Pourquoi pas ? Donc voilà, la culture italienne, c'est ça aussi, c'est la cuisine, Madame Smalto.
Absolument, absolument, et je suis tout à fait pour. Alors les pâtes, je pense qu'on ne peut pas s'en passer.
Voilà, et alors bah, justement, après qu'on ait mangé, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on fait du sport, donc on va ouvrir une petite page de sport, vous êtes d'accord ?
Waouh !
Alors, je vais vous parler d'une nouvelle tête dans le, justement dans le sport italien. C'est pas tout à fait une nouvelle tête, mais c'est vrai qu'il y a eu la course ex-Transat Jacques Vabre là, qui s'est déroulée. La plupart des les premiers skippers, en tout cas, sont arrivés ce week-end. Et donc, maintenant, ça s'appelle la Transat Café L'Or. Et donc, en catégorie IMOCA, donc la catégorie qui fait, par exemple, le Vendée Globe, pour vous résumer, il y a une Italienne, Francesca Klapcic, qui est d'origine, qui est d'origine de Trieste, qui a fait la course dans le trio de tête. Elle était troisième une bonne partie de la course. Et qu'est-ce qui s'est passé aux abords, à la dernière ligne droite, disons ? Eh bien, elle est passée deuxième. Donc, elle est arrivée vraiment derrière le premier, Jérémy Bayou, qui est un très grand skipper. Et donc, elle arrive là, dans le secteur des IMOCA, en cassant tout. Elle a quand même fait d'autres. Elle avait gagné notamment The Ocean Race, une grande course autour du monde en 2023. Elle a participé à la Coupe de l'Amérique à l'Ocean 50. Donc, c'est des courses en équipage. Et donc, là, elle veut s'attaquer à la course en solitaire. A souligné aussi que la quatrième place a été remportée par Ambrogio Beccari, un navigateur milanais aussi, quelqu'un d'assez jeune. Et donc, je parlais d'ailleurs tout à l'heure avec Renato, qui a connu Giovanni Soldin, un grand marin italien. Et donc, Francesca, son objectif, c'est d'être au départ du Vendée Globe. Donc, en 2028, ce n'est pas tout de suite. Donc, la grande course en solitaire autour du monde. Et on salue d'ailleurs aussi, c'est l'objectif aussi de Giancarlo Pedotti, et qu'on suit depuis 5 ou 6 ans. On lui adresse un grand salut amical parce que lui aussi, il va vouloir faire cette course autour du monde. Son objectif, c'est le Vendée Globe 2028. Voilà, on referme rapidement cette page sport parce qu'on a d'autres choses à faire. On va revenir un petit peu sur la famille Aznavour, puisqu'il y a quelques, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a quelques jours, la famille Aznavour et la fondation Aznavour ont annoncé la disparition de Aïda Aznavourian, qui n'est autre que la sœur bien-aimée de Charles Aznavour. C'est le 22 octobre 2025, à l'âge de 102 ans. 102 ans, elle était la confidente, la mémoire, l'encre de la vie de Charles Aznavour. Elle est née en Grèce, elle a grandi à Paris. Et d'ailleurs, signaler qu'en 2017, Aïda et Charles Aznavour ont reçu le prestigieux prix Raoul Wallenberg pour leur engagement dans les opérations de sauvetage pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette distinction leur a été remise par le président israélien Reuven Rivlin à Tel Aviv. Donc elle est inhumée dans le caveau familial à Montfort-l'Amaury. Donc elle rejoint son mari, Georges Garvarentz, qui n'est autre que le compositeur de Charles Aznavour, qui lui, malheureusement, est décédé en 1993 à l'âge de 60 ans. Donc, assez jeune, mais il avait fait notamment compositeur de Daniela pour Les Chaussettes Noires, Retiens la nuit pour Johnny Hallyday, La plus belle pour aller danser de Sylvie Vartan, et évidemment Charles Aznavour, les plus grandes musiques de Charles Aznavour, Hier encore, Emmenez-moi, Nous irons à Vérone pour la partie italienne. C'est lui, Georges Garvarentz. Donc du coup, on va s'écouter une petite chanson. Alors celle-là, c'est pas vous qui l'avez choisie, mais bon, on reste quand même dans le giron de Charles Aznavour, Les plaisirs démodés, et toujours en italien, ça s'appelle Quello che non ci fa più. C'était en 1972.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Nell'oscurità del fiasco familiare, del posto più all'amore in tutta la città, noi rimaniamo qui per ore ad ascoltare. Io ti ho incontrato qui dove eri un personaggio in mezzo a tutti quelli della nostra età, e torno qui con te come un belle camminaggio.
Voilà, bon, on a un petit problème technique sur la chanson de Charles Aznavour, mais comme ça, bon, on a quand même entendu les premières notes des plaisirs démodés de Charles Aznavour. On va quand même continuer continuer d'être dans le raffinement de la culture italienne. Je vous propose une exposition. Donc là, on est en Italie. Je vous emmène à l'hôtel de Crillon, place de la Concorde. La légende raconte que la jeune reine Marie-Antoinette aurait suivi des leçons de piano dans le salon qui porte aujourd'hui son nom, qui donne sur la place. Et c'est donc ce lieu, le lieu de l'exposition du créateur italien Manolo Blahnik, qui est un créateur de souliers, donc justement en hommage à Marie-Antoinette, ses fameux souliers. Et c'est lui qui avait fait les souliers du film de Sofia Coppola, Marie-Antoinette. Donc, c'est une espèce de il recrée les souliers du 16e, 17e siècle et rend hommage à l'élégance intemporelle de la reine de France. Il a une carrière de plus de 50 ans, Manolo Blahnik. C'est un créateur de chaussures et d'accessoires. Et il a fondé en 2019 sa maison. Il l'a installée justement en Italie, en Lombardie. Dans la province de Pavie à Vigevano, donc il a un atelier et un site de production. Voilà, ça c'est pour Manolo Blahnik. Et donc je ne sais pas si c'est les derniers jours de l'exposition, donc je ne sais pas si elle y est encore, mais en tout cas, vous pouvez aller voir son travail qui est d'un raffinement extrême avec ses souliers à talons comme ça typique de la cour de France. On va continuer sur la culture affinée avec un tableau d'un peintre bolognais, Guido Reni, qui fait beaucoup parler de lui cette année en France, donc un peintre de l'époque du Caravage, du 16e siècle aussi, qui a été identifié. Donc il y a eu un autre tableau, Atalante et Hippotème, qui est au musée du Prado à Madrid, mais qui a été identifié dans une autre version dans les réserves du musée des Beaux-Arts de Libourne. Et c'est le cabinet d'expertise d'Éric Turquin qui... vient présenter ce nouveau tableau. Ça s'appelle La tête de Goliath, donc qui est une autre version de celui qui est conservé, celui-ci, au Louvre. C'est un tableau qui va être mis aux enchères à Paris, chez Drouot, le 25 novembre, dans une quinzaine de jours, avec une estimation de 3 millions d'euros. Donc un beau tableau que j'ai eu la grande chance d'aller voir dans le cabinet turquin.
Oui, je voulais dire que j'ai vu ce tableau à Libourne. Ah. J'ai vu aussi à Madrid, exposé à Madrid, et il y a eu cette année également, puisque on a fêté beaucoup Guido Reni, au musée d'Orléans, musée des Beaux-Arts d'Orléans, une grande exposition sur Guido Reni et toutes les œuvres qui ont été construites sur d'après Guido Reni.
Ouais. Et donc c'est vrai que c'est assez étonnant. Bah, c'est là en ce moment là, on parle beaucoup du Louvre et c'est vrai que c'est des tableaux inestimables. Mais il y avait ce Judith, par exemple, de Caravage, Judith décapitant Holofernes, qui a été déniché donc justement par Éric Turquin, l'expert parisien, en 2014 dans un grenier de Toulouse, quand même, après plus de 400 ans, quoi. C'est incroyable. Et donc, il s'est spécialisé un peu là-dedans, puisqu'il avait aussi retrouvé la dérision du Christ de Cimabue et en 2019 dans une cuisine de l'Oise. Voilà, et qui a été par la suite acquise par le Louvre, donc en 2023, acquise par le Louvre. Voilà. La culture, le raffinement qui nous donne tant d'émotions. Et donc, Madame Smalto, vous nous avez choisi une chanson d'Adriano Celentano, écrite par Mogol, composée par Gianni Bella, arrangiamento de Fio Zanotti. Et ça s'appelle, on a beaucoup d'émotions, mais comme le chante Adriano Celentano, l'emozione non a voce.
Grazie.
Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce. E mi manca un po' il respiro, se ci sei c'è troppa luce. La mia anima si spande come musica. Poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi. Io con te sarò sincero, resterò quel che sono. Disonesto mai lo giuro, ma se tradisci
non perdono. Ti sarò per sempre amico, pur geloso come sai. Io lo so, mi contraddico, ma preziosa sei tu per me. Tra le mie braccia dormirai serenamente. Questo sai, per sentirci pienamente noi, un'altra vita mi darai, che io non conosco, la mia compagna tu sarai, fino a quando so che lo vorrai. Due caratteri diversi prendono fuoco facilmente, ma divisi siamo persi, ci sentiamo quasi niente. Siamo due legati dentro da un amore che ci dà la profonda convinzione che nessuno ci dividerà. Braccia dormirai serenamente ed è importante questo sai, per sentirci pienamente noi, un'altra vita mi darai, che io non conosco, la mia compagna tu sarai, fino a quando lo vorrai. Vivremo come sai, solo di sincerità, di amore, di fiducia, poi sarà quel che sarà.
Eh bien, on va parler de la cuisine sarde.
C'est que le plaisir.
La cuisine sarde, qui, voilà.
Et des chansons italiennes.
Oui, il y aura beaucoup de choses à dire. Non, on va parler maintenant, vous nous faites l'honneur, Madame Smalto, de venir dans nos studios en direct. Donc, on va parler de Francesco Smalto, donc né, on l'a dit, à Reggio Calabria, connu pour ses costumes, d'avoir habillé Jean-Paul Belmondo. Connaît, il portait très bien le costume comme il était baraqué, du coup, avec les gros revers. On voit ça dans les grandes années de Belmondo. Ben voilà, c'était Monsieur Smalto. Et puis, évidemment, surtout Charles Aznavour. Charles Aznavour, dont vous m'avez dit qu'il avait fait un costume spécial pour la scène, pour lui, en tissu très fin.
Tout à fait. Moi, je l'ai appris et bien entendu, il a habillé Monsieur Aznavour pendant des années. Et ils ont trouvé cette astuce, justement, de faire la veste avec un tissu très très fin que habituellement on utilisait pour les cravates et de couleur sobre. Donc ça lui permettait de avoir cette légèreté pendant le concert et ils ont été très contents et pendant des années cette collaboration elle est devenue amicale et quand j'ai eu la chance de rencontrer mon défunt mari. J'ai pu rencontrer également M. Aznavour, mais déjà dans la qualité de l'ami.
Mmh. Alors, c'est sûr que ça nous ramène à une époque, évidemment, ces grands couturiers. M. Smalto a commencé comme coupeur, il faut le savoir.
Chez Kamps, à 22 ans. D'accord. Très, très jeune.
Alors d'ailleurs, il y a Mario Vecchione qui est avec nous dans les studios. Et Mario, tu nous parlais, est-ce que tu peux prendre le micro là d'Alain et nous dire cette anecdote que tu m'as racontée tout à l'heure?
Juste un petit complément, c'est que M. Smalto a commencé avec Kamps. Et donc j'ai un cousin qui s'appelle De Luca Marc, et il est le fils de Mario De Luca, qui s'est trouvé travailler sur la place de la Madeleine, et c'était l'entreprise Camps De Luca. Donc je pense que ils ont dû
se côtoyer professionnellement, voilà, à l'époque.
Voilà
La petite anecdote de Mario Vecchione. Ouais, merci beaucoup. Alors c'est vrai que c'est l'époque où donc il y avait, bon, je l'ai dit, Belmondo. Il y avait aussi Delon qui portait admirablement le costume cravate. Donc on est vraiment dans l'élégance. Et puis il y avait aussi Lino Ventura avec les costumes Cifonelli. Lui c'était le côté armoire à glace, mais alors quel style, quoi, un style incroyable qu'on, je sais pas si on le retrouve encore aujourd'hui, mais comme on dit, mais c'est vrai que c'était comme votre mari, c'était son travail de chercher à habiller les corps vraiment à la perfection. C'est vrai que ça fait rêver. Vous m'avez dit qu'il était aussi bon cuisinier d'ailleurs pour
tout à fait
pour faire une carte dans la cuisine. Alors donc vous êtes né en Fédération de Russie, c'est-à-dire en Union soviétique.
Oui, parce que ça fait déjà quelques années, en ce moment-là, ça a été l'Union soviétique.
Et donc, vous êtes diplômée en psychologie, psychologue clinicienne, c'est ça, et vous avez fait votre doctorat sur les recherches de
post-trauma
des liquidateurs de la centrale de Tchernobyl. Ça, c'était en
Vous
Russie.
Êtes extrêmement bien informé.
Ben oui, parce que j'ai le catalogue de la fondation, de votre fondation signature, et donc c'est très bien expliqué là-dedans.
Mais il y a quand même les informations qui ne sont pas données dans cette brochure, donc je vois que vous êtes extrêmement bien informé. C'est vrai, je suis psychologue clinicien avec le diplôme de psychologie clinique et psychopathologie, et la thématique principale qui m'a intéressée dès le début, c'est l'impact, si vous voulez, de cet accident majeur très important sur le psychisme des personnes qui ont travaillé en tant que liquidateurs après cette fameuse accident en 1986.
Et donc ensuite, vous êtes arrivé à Paris et vous avez continué vos études à l'université René Descartes. Et donc là, vous avez un doctorat en approche psychologique du chômage en Ukraine.
En effet, on a quand même un tout petit peu des années entre mon premier doctorat.
Oui, non, mais on résume, évidemment. On est obligé.
Avec les travaux sur le Tchernobyl et ensuite le deuxième thèse que j'ai fait à Paris 5, en effet, parce que on a essayé de regarder est-ce que l'origine, si vous voulez, de l'événement stressant peut apporter une différence par rapport à l'impact sur le psychisme. Et donc, on a regardé les différents événements et entre autres, le nouveau événement qui est arrivé justement après la disparition de l'URSS, c'est les chômeurs. Parce que pendant l'URSS, tout le monde travaillait.
Il n'y avait pas du tout.
Et ça a été un nouvel, si vous voulez, événement social qui est arrivé après des années 96-90.
Donc on va continuer justement votre histoire, parce que c'est vrai que déjà là, on sent que, je ne vous ai pas menti, elle a une destinée particulière. Et donc là, à Paris, c'est là où vous rencontrez M. Smalto à cette époque-là, quand vous étiez encore étudiante, vous étiez en thèse.
Alors, étudiante, effectivement, en thèse aussi juste. 3 mois juste avant la soutenance de la thèse. Donc, je pense que c'est une rencontre extrêmement marquante et un certain destiné, parce que je suis restée en France grâce à cette rencontre et pour continuer ma vie personnelle et professionnelle.
Ouais. Et oui, parce que vos parents sont, votre père était recteur de l'université en Ukraine.
Tout à fait.
De Kharkov.
Tout à fait, pendant des années.
Voilà. Donc, c'est
la différence de mariage entre le parcours académique et le parcours complètement artistique.
Voilà,
c'est vrai que ça n'était pas gagné tout de suite.
Ouais, c'est C'est ça, la destinée, c'est que c'est rien n'est écrit, ou plutôt les choses sont écrites et il faut les accompagner. On ne sait pas de quelle manière on doit l'analyser.
Justement, je pense qu'il ne faut pas analyser. Quand on essaie d'analyser, il n'y a pas grand-chose qui puisse nous faire rencontrer ou côtoyer des quartiers complètement différents. Moi, je suis plutôt à la Sorbonne et boulevard Saint-Michel, et M. Smalto, c'est très angle d'or, donc rien de commun. Et il y a effectivement cette rencontre à l'UNESCO pendant un événement culturel.
Ouais.
Et la suite qui, peut-être, on peut comprendre avec une cœur, avec une émotion, mais c'est très difficile de comprendre avec une logique.
D'accord. Donc, et donc maintenant, vous perpétuez justement la philanthropie de M. Smalto au travers de la Fondation Signature, c'est ça, et des Amis des Jardins Remarquables Européens.
Alors, je dirais que c'est un lien émotionnel et peut-être symbolique, mais la Fondation, elle a été créée 3 ans après sa disparition.
Mmh.
C'est un projet que j'ai réussi à faire pour peut-être combler ou en tout le cas survivre, surpasser cet événement qui a fortement marqué. Et ça a été ma manière justement de donner la suite de notre histoire.
Mmh.
Ça a été tout à fait logique que ça se passe dans le milieu culturel. Après, encore une fois, quand on entame le nouveau projet, on le fasse construire avec notre expérience, avec notre propre caractère, avec nos repères, avec notre motivation et nos envies. Et c'est pour cette raison, quand on me dise « mais Fondation Signature, ça ressemble à aucune d'autre fondation », je suis extrêmement fière. Et je pense que c'est tout à fait naturel, parce que justement, c'est quelque chose de très personnel.
Alors justement, pour expliquer un peu à nos auditeurs ce que fait votre fondation, on va revenir rien simplement ce que vous avez fait, les événements qu'il y a eu au mois de septembre dernier. Donc le 20 septembre, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, vous étiez donc dans le jardin de la pépinière la Tour Marliac, qui était finaliste d'ailleurs du prix de l'art des jardins que vous attribuez tous les ans. Et donc, voilà, je ne sais pas si vous voulez nous en parler un petit peu.
Du festival de la Fondation Signature.
Donc voilà, pardon, c'est ce que je voulais dire. Dans la pépinière de la Tour Marliac, il y a eu le festival deuxième édition du festival Nomade Signature.
Tout à fait.
Donc avec des artistes que vous mettez en avant.
Oui, parce que la Fondation, elle existe depuis 7 ans. Donc nous faisons certain nombre des propres prix. Le prix de l'art de jardin, qui est donné en partenariat avec le ministère de la Culture pour les jardins labellisés jardins remarquables. C'est une label qui est donné par le ministère de la Culture. Nous avons eu le prix des musiciens, qui a été fait pour les jeunes musiciens qui sont chambristes dans l'Académie de l'Opéra de Paris. Nous avons le prix Fabuleuse Signature. Ça, c'est pour les femmes artistes qui font son parcours artistique ici en France, mais qui sont venues d'ailleurs des différentes nationalités. C'est ça qui fait son charme et qui viennent de différents horizons artistiques. Autant il y a des musiciennes, des compositrices, des peintres, des sculptrices, et nous sommes tous réunis dans un cercle des fabuleuses signatures. Et quatrième prix qui est venu comme un hommage au métier de mon défunt mari, c'est le prix d'atelier, la création des costumes de scène.
Voilà, ça c'est un prix très important. On va en parler justement juste après parce que c'est vraiment un prix très important dans la Fondation Signature. Et la Fondation Signature est très importante, mais sur le
pour
jardin
le festival de la... Vous voulez que je vous dise quelques mots sur le festival ?
Oui, mais je voulais revenir sur le jardin de la Tour Marliac parce qu'il y a, il y a une collection de nénuphars qui est assez
unique.
Remarquable. Par exemple, c'est un jardin aquatique et qui a inspiré Claude Monet quand il est venu à la Tour Marliac. Il a passé commande pour la réalisation
absolument.
De son bassin à Giverny.
C'est un site unique.
Voilà. Et alors, on part aussi. Donc là, c'est vrai vous nous faites envie parce que quand on vous suit sur les réseaux, ensuite, vous avez été le 28 septembre à côté du Mont-Saint-Michel au château de Chandor dans la roseraie qui a été inaugurée, une collection de roses. Fantastique. Donc là aussi, c'est un jardin, donc c'est autre chose, c'est plus de l'aquatique, là c'est une roseraie. Et d'ailleurs, comme souvent dans les roses, on les attribue à des artistes.
Oui. Alors, c'est tout à fait une démarche intéressante parce que l'idée est de créer une nouvelle route touristique, la route des roses, dans la région de Nord et dans la Normandie. Au château de Chantor, qui est jardin labellisé Jardin Remarquable, nous avons inauguré une roseraie qui est faite avec les nouvelles créations, les nouvelles roses qui sont créées pendant ces quelques années par un grand créateur des roses, Christian de Chassé. Mmh. Et vous avez tout à fait raison. Donc, la particularité que ce sont des roses attribuées aux différents grands artistes, entre autres Pavarotti.
Luciano Pavarotti, ouais.
Absolument.
Maurice Ravel.
Et j'ai été extrêmement émue qu'il y a une des roses qui porte maintenant le nom de la Fondation Signature.
D'accord.
Comme un certain grâce et hommage par rapport à ce qu'a fait la Fondation. Et là, bien sûr, je le prononce avec beaucoup de fierté.
Ouais. Et d'ailleurs, le proverbe du jardin, c'est « là où s'épanouit une rose, s'épanouit aussi un monde de beauté. »
Oui.
Alors justement, on parlait de Luciano Pavarotti. On va l'écouter. Vous nous avez choisi une chanson de Luciano Pavarotti.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Voilà, donc la Fondation Signature avec Madame Natalia Smalto, révéler des talents artistiques et enrichir notre patrimoine culturel. C'est le cœur de...
C'est ambitieux, hein.
Ben oui, mais c'est bien, c'est vraiment bien. On est au cœur de la philanthropie qu'aurait voulu Monsieur Francesco Smalto.
Tout à fait. Je voudrais bien de penser de cette manière.
Mmh. Alors, j'ai une petite annonce à faire parce qu'on va être coupé, l'antenne de la FM sur Allegre FM va être coupée pendant 30 minutes à partir de 11h30. 11h, pardon, de 11h à 11h30. Mais vous pouvez toujours nous écouter sur Internet et le DAB. Voilà, on vous le redira tout à l'heure. Alors, très important, c'est votre prix d'atelier Costume des Arts de la Scène, d'ailleurs qui était remis donc en 2025 au Théâtre National de Strasbourg. Et donc, c'est un prix très novateur, donc justement en hommage à Monsieur Smalto, on l'a dit, qui était en premier métier, qui était coupeur, donc rendre hommage aux mains qui travaillent justement pour la fabrication de ces costumes.
Oui, tout à fait. Pour moi, ça a été tout à fait évident qu'il faut primer et aller vers atelier, parce que pour lui, l'atelier, c'est le cœur. Il a été coupeur, vous avez bien dit. Il savait faire l'ensemble de... costume, et c'est vrai que j'ai eu la chance de voir l'atelier, comment ça fonctionne par l'équipe, comment elle a su organiser, et ça a été important pour moi justement mettre en valeur ces personnes qui travaillent dans les ateliers, et que le savoir-faire, elle est tout à fait particulière. Autant on peut parler des ateliers des grandes marques, autant on parle des ateliers qui sont faits au cœur de nos opéras et de nos théâtres. C'est absolument le même processus, le même savoir-faire, bien sûr peut-être avec quelques spécificités, parce que les costumes sont utilisés sur scène parfois pendant plusieurs années, mais le mode de fonctionnement et le savoir-faire, il est quand même identique. Et il faut les rendre hommage, et il faut aussi promouvoir ces métiers pour qu'ils ne disparaissent pas, parce que malheureusement, les jeunes ne s'intéressent pas autant à ces métiers, qui peut-être n'est pas si mis en valeur comme les stylistes parfois. Mmh. Et ça ne donne pas autant rêver, mais en réalité, c'est eux qui font un travail de fond. Mmh.
Et donc justement, ce prix donc, vous avez attribué au Théâtre National de Strasbourg, mais il y a aussi les finalistes derrière, et ça met en avant, vous mettez en avant justement tous ces finalistes. Il y a le Théâtre de l'Opéra Comique, le Théâtre Italien à Paris, mmh. le Théâtre du Châtelet, cinquième finaliste, l'Opéra mmh. de Lyon, l'Opéra National du Rhin. Donc voilà, un travail incroyable, et c'est vrai qu'il est un peu, comme on est toujours dans le jus de l'activité, vous, la Fondation permet d'avoir du recul là-dessus et de mettre en avant justement d'aller à l'essentiel et de faire prendre conscience justement aux gens de l'essentiel du travail, de l'essentiel de justement ses mains, de mettre en avant le travail de la main, l'intelligence de la main et ce travail pour les costumes. Ça nous fait penser de saluer Gabriel Lorès qui fait partie des amis de Cappuccino, qui a fait sa carrière dans le textile. Lui aussi, on te salue Gabriel. Et donc, vous défendez la beauté. Donc, ça me fait penser aussi à une citation. La beauté sauvera le monde. Vous savez de qui c'est ?
Oui, c'est Dostoïevski.
Eh oui, Dostoïevski, donc ce grand écrivain russe.
Et c'est une inspiration. Merci pour cette clin d'œil. Je pense que voilà, c'est cette ouverture peut-être dans moi qui est ouverte pour les différentes cultures, ma culture slave, russe, ma culture maintenant je peux le dire française parce que je vis ici depuis plusieurs années, la culture italienne grâce à mon défunt mari, et maintenant j'ai un tel plaisir de côtoyer les artistes qui sont venus du monde entier en France pour vivre leur vocation artistique, que je peux me permettre voilà cet brassage des différentes mentalités et vraiment les créations qui sont faites dans les différents coins du monde.
Donc la culture, alors ça me fait penser ça aussi, la culture et la beauté.
C'est universel.
Que c'est universel, mais c'était le programme. Pardon, mais de François Mitterrand et Jack Lang en 1981 quand ils sont arrivés au pouvoir. C'était ça leur credo, l'arrivée de la gauche en France, c'était ça. Donc c'est aussi politique, c'est pas de la politique politicienne, mais c'est du politique, c'est d'essayer de développer ça.
Je dois vous dire que, bien sûr, la culture, elle ne peut pas être apolitique complètement, mais je pense que chacun de nous fait ses propres choix, et je pense que moi, je fais le choix de la culture, de mettre en avant les artistes, de leur savoir-faire, de leur création, de leur talent, et c'est ça qui est primordial pour moi et pour notre fondation.
Voilà, donc votre fondation, c'est la Fondation Signature. Vous pouvez aller sur le internet, votre site fondation-signature.org et sur l'association des amis des jardins remarquables européens, AAJRE.org. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci d'être venu ici. Merci beaucoup de nous partager tout ça.
Merci.
Et à très bientôt.
À très bientôt.
Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Ci vediamo alla prossima.
Alla prossima.
Sicuramente.